Alright, bonjour tout le monde. Et j'espère que ça vous a fait la même effet que moi quand j'ai entendu cette tune-là il y a quelques heures maintenant qui est comme pour l'amour du ciel, c'est quoi cette tune-là? Si vous êtes un petit peu âgé, genre j'ai fucking 30 ans, mais ça, les années 2000, là, ça fait plusieurs millénaires de ça, à date, là. Mais bref, vous avez sûrement déjà entendu cette tune-là si vous avez plus que genre 25 ans, puis était dans à peu près tous les fucking films des années 2000, puis elle kickstartait tout le temps, genre quand tout commençait à être heureux, puis quand la ville commençait à être belle, la vie commençait à être belle dans l'histoire du protagoniste. Et cette chanson, après maintes temps de recherche, s'appelle Check Yes, Juliette de We the Kings, qui est. Bonne petite toune pour vrai, j'écoutais ça en courant, puis ça le faisait vraiment bien. Parlant de course, aujourd'hui, je vais essayer de faire un podcast qui est relativement soft, relativement facile, parce que pour vrai, c'est un des sujets qui est probablement le plus massacré à la course à pied, qui est vraiment pas quelque chose de très complexe, mais c'est surprenant la quantité de coureurs qui sont vraiment, vraiment pas à l'aise avec. Ben, je sais pas à quel point ils sont pas à l'aise. Genre, la plupart du monde en ont entendu parler, savent à peu près c'est quoi, mais n'ont jamais compris l'application ou comment vraiment, vraiment bien l'utiliser. Puis, je vais essayer, je parle de l'entraînement selon les zones ou le concept de tout ce qui est zone cardiaque ou zone d'entraînement en endurance. Puis, je vais vraiment essayer de faire ça le plus simple possible parce que c'est ça qui est intéressant avec le training de zone, c'est que fondamentalement, c'est quelque chose qui n'est pas censé être compliqué. Puis, dans l'application, des fois, c'est un peu plus compliqué. Puis, on va essayer de parler de ça. Je vais essayer de faire un podcast relativement soft, relativement short pour juste pitcher tous les concepts pour garder ça le plus applicable possible. Puis, Dieu sait que ça ne sera pas applicable si je pars sur une parenthèse puis une espèce de trend d'un bord comme je fais d'habitude, ce que je suis clairement en train de faire en ce moment. Fait qu'on retourne à nos moutons, entraînement, zone cardiaque en ce moment. Alright, fait que la première affaire que j'aimerais ça dire là-dessus, c'est que si vous ne savez pas c'est quoi, training de zone, puis vous êtes abonné à Strava vous le donne automatiquement si vous avez la version payante. Dans le fond, le concept des heart rates, c'est que on split l'effort aérobique, ça marche uniquement avec les efforts aérobiques. Ben, en fait, ça peut marcher avec certains efforts anaérobiques, mais on va regarder ça un peu plus simple. Mais ça marche presque majoritairement avec les efforts qui sont aérobiques. Fait que tout ce qui est cardio plus longue distance, ça va commencer à avoir de la valeur. Ben, ça va avoir de la valeur d'utiliser ce modèle-là. Puis, essentiellement, c'est pas compliqué, c'est qu'on regroupe, on fait des barèmes, on traite des lignes entre différentes fréquences cardiaques ou seuils de fréquences cardiaques pour créer des zones d'entraînement. L'objectif de ça, c'est de mathématiser. Si ça se dit, c'est de mathématiser l'intensité d'entraînement ou de rendre l'intensité d'entraînement beaucoup plus concrète, dans le fond, beaucoup plus brainless pour la plupart du monde de tu cours roughly à tel pace, basé sur ta fréquence cardiaque. C'est ça l'intention. Fait que c'est fait pour être considérablement simple. Puis ça, c'est aussi son reproche principal, OK, du monde qui ne sont pas pour l'entraînement des zones aérobiques parce qu'ils disent que justement, ce n'est pas précis d'utiliser la fréquence cardiaque, surtout lorsqu'elle est mesurée au poignet. Puis c'est vrai. Puis c'est vrai que généralement, la fréquence cardiaque prise au poignet, si vous avez une bande thoracique, c'est une autre affaire, mais la fréquence cardiaque au poignet, généralement, va surestimer quand même considérablement. Sauf que cet argument-là est vraiment, vraiment intéressant. C'est pas parce que tu n'es pas capable de lander, man, une fucking fusée sur un sur 10 mètres carrés au Nevada des États-Unis avec la précision de 12 000 fucking astronautes que ta mesure est de la merde, man. C'est pas parce que tu n'es pas capable d'avoir une précision ridicule que la mesure n'a pas de valeur pour autant. Puis surtout, surtout, surtout dans le monde de l'endurance, le monde a tendance à être très, très, très anal sur des chiffres, sur des paces, sur des concepts, sur des mesures, dont sans vouloir être baveux, dont la plupart d'entre eux ne comprennent même pas les dites mesures qu'ils utilisent parce qu'il y a toujours une marge d'erreur sur à peu près tout. Puis là, la question, c'est est-ce que la marge d'erreur vaut l'application? Parce que tu n'es pas obligé de te guérir en équipement de recherche non plus, mon homme. T'sais. Tu peux avoir quelque chose qui va quand même te donner une certaine zone d'intensité, avoir quand même une certaine précision, sans penser que ta précision t'a été délivrée par le pape lui-même. T'sais. Fait que c'est vraiment, vraiment ça le reproche. C'est important de reprendre le concept du modèle des ondes cardiaques ou d'entraînement selon les ondes, puis de le remettre vraiment, vraiment en contexte de non, man. C'est pas quelque chose qu'on utiliserait en recherche. Genre, c'est une méthode de terrain, c'est un outil, puis ça n'a pas la précision, ça n'a pas une précision folle. Parce que son reproche principal, c'est exactement ça. Surtout quand il est pris au poignet, mais tu sais, oui, ça surestime, mais ça surestime un peu tout le temps de la même façon. De manière que oui, c'est ta fréquence cardiaque au poignet surestimée de 10 battements, mais sous le temps de même battement, tu sais, que ça soit un 170, mais qu'en vrai, ça soit un 160, on s'en fout un peu. Là. Tant que tu marches un peu tout le temps avec la même mesure, puis ça va être ça l'intérêt pour la plupart du monde. Ce n'est pas nécessairement de varier la mesure, ça va être de pas mal tout le temps fonctionner. Par contre, la mesure de fréquence cardiaque, elle en soi, peut fluctuer énormément. Entre autres, tout ce qui est prise de drogue, prise de caféine, alcool, tout ce qui va être stress, tout ce qui va être récupération, il y a vraiment beaucoup de variables qui peuvent affecter de manière quand même significative la fréquence cardiaque. Fait que c'est vraiment important lorsqu'on travaille avec un modèle comme ça. de ne pas buzzer là-dessus. De ne pas faire « Oh mon Dieu, c'est sa sainteté, puis c'est vraiment important. » De là, toute mon intro un peu via le modèle, ça fluctue pas mal. Puis, c'est pas nécessairement le modèle le problème, c'est de rentrer le modèle religieusement dans la gorge. C'est souvent vraiment, vraiment ça le problème. Puis, pour cette raison-là, je vous dirais, le monde qui sont avancés, fréquence cardiaque, surtout poignet, s'il n'y avait pas de bande, moi, je ne parlerais pas trop avec ça parce que justement, dans le cas de quelqu'un qui est avancé, la marge d'erreur pourrait être problématique pour créer différentes adaptations d'entraînement. Ceci étant dit, ce n'est pas la plupart du monde qui vont écouter ce podcast-là. Puis l'autre affaire, ça va être probablement le monde qui sont débutants. Je vous dirais, au mieux, c'est de buzzer avec le Shiny Object Syndrome, de buzzer ses fréquences, ses zones. Sauf que la plupart du monde, ça va juste rendre un obstacle logistique supplémentaire. Tu sais, avant d'avoir un bon 3-4 mois solide de course dans cravate, si t'es un débutant, moi, je ne buzzerais pas trop avec les fréquences cardiaques. Fait que, mettons, tirer une ligne à 6 mois, là, 5-6 mois, whatever, là, juste pour dire à peu près, ça peut avoir la peine de l'intégrer. Puis le monde sont très avancés, moi, je ne buzzerais pas avec ça. Fait que pour l'écrasante majorité du monde, ça peut être un outil qui a de la valeur lorsqu'il est bien appliqué, qui est exactement ce qu'on va faire ensemble. Fait que non, ce n'est pas parfait. Non, ce n'est pas religieux, mais par contre, c'est quand même une belle manière d'utiliser les ondes, de vraiment comprendre comment appliquer ton entraînement si tu le suis de manière relativement pas pire, tu sais. C'est vraiment, vraiment ça qu'on va checker ensemble. Fait que la première affaire, sur les différents modèles, il y a plusieurs modèles qui existent, en fait. Il y a des modèles qui vont jusqu'à 7 zones, sauf que le modèle le plus utilisé, qui est celui que je vais parler aujourd'hui. Par contre, je trouve ça quand même important d'en parler parce qu'il y a plusieurs modèles avec différents cut-offs, dans le sens qu'on peut baser le training de zone sur la fréquence cardiaque, mais il y a beaucoup de monde qui peuvent le baser aussi sur le VO2 max, avec la capacité purement aérobique, la capacité où est-ce que ton corps a d'utiliser l'oxygène, mettons. Fait que les cut-offs ne sont pas les mêmes, les seuils ne sont pas les mêmes, puis uniquement ce qu'on fait, c'est qu'on base sur la fréquence cardiaque pour les modèles de zone. Fait que, mettons, la manière la plus populaire de compter ça, ou du moins définitivement la plus simple, c'est 220 moins ton âge. Pour la grosse majorité du monde, ça devrait pas mal te donner à quoi ressemble ta fréquence cardiaque, plus ou moins. Là. Ça devrait être ta fréquence cardiaque maximale. Puis après ça, on prend. Je vais faire les calculs et moi, juste pour le rendre un peu plus simple. Moi, j'ai 31 ans en ce moment, fait que 220 moins mon âge, ça me fait quoi? Ça me fait genre 179 de fréquence cardiaque. Moi, j'ai déjà vu un 185 cette année. Fait que je sais que ma fréquence, mon 179, tu sais, en même temps, quand tu le mets en comme de même, puis 179 versus 185, c'est pas une si grosse différence. Par contre, la manière la plus appropriée de le savoir, c'est vraiment de le tester. Tu te fais une run dans le fond, puis tu cours vraiment, vraiment à côté dans la barure, puis ça va te donner c'est quoi ton vrai VO2, puis ta vraie fréquence cardiaque maximale. Fait que c'est quoi la capacité de ton cœur à monter le plus haut possible pour aller chercher dans un effort si tu tiens vraiment à être dans le rouge, là, vraiment, vraiment à côté. Puis ça va te donner un chiffre, mais 220 moins l'âge sur la plupart du monde, ça va pas mal le donner. T'es mieux de starter qu'un à peu près, puis d'ajuster. Puis c'est un peu ça mon intro, genre. T'es mieux de partir avec quelque chose de roughly imparfait, puis après ça, de l'ajuster en cours de route, que juste de pas suivre, de plan pantoute parce que ça n'a pas la précision d'une navette spatiale, ou de juste le eyeballer, tu sais. T'es probablement mieux d'y aller avec une espèce d'arrêt, ce qui fait que pour la plupart du monde, ça peut être quelque chose qui a beaucoup de valeur, sincèrement, le training des ondes. Mais bref. Fait que 220 moins l'âge, ça va te donner dans mon cas 179. 179 représenterait mon 100% de ma capacité aérobique totale. Fait que ça, c'est pas de ma fréquence cardiaque totale, pardon. Fait que 100%, mon cœur n'est pas capable de monter plus haut que ça, 179 estimé. Puis ensuite, on va le coter selon différents pourcentages qui peuvent varier selon justement les modèles. Il y a des modèles qui vont fonctionner avec 55-65, il y en a qui vont fonctionner avec 50-60. Le plus utilisé est probablement 50-60, fait que je vais rouler avec celui-là, mais c'est important que si vous avez un modèle ou c'est quelque chose, allez checker les cut-offs sont fixés comment. Parce que vous avez des cut-offs de fréquence cardiaque, mais ça arrive très, très souvent qu'on va fixer des cut-offs avec la capacité aérobique aussi ou le seuil ventilatoire ou des affaires dans l'une. Fait que c'est vraiment, vraiment important de savoir qu'est-ce que vous utilisez comme modèle, mais la plupart du monde, ça va ressembler à ça. On part de mon 100% qui était 179. Fait qu'ensuite, on va le splitter pour la plupart des modèles à coût de 10%. Fait que on va avoir ce qu'on appelle la zone 5 qui va être 90 à 100%. Fait que là, je ne le compterai pas avec vous autres, mais mettons mon 179 et mon 100%, ben, je compterai mon 90. Ça serait ma zone 5. Fait que n'importe quoi qui est fait entre 90 et 100% d'entraînement de fréquence cardiaque, ça me donne ma zone 5. Ensuite, c'est 80 à 90 pour la zone 4. 70 à 80 pour la zone 3, 60 à 70 pour la zone 2, puis n'importe quoi en bas de 60 serait considéré de la zone 1 en termes d'aérobie. Puis ce qui est vraiment, vraiment important de comprendre, c'est que l'intérêt de faire ça, c'est que différentes zones d'entraînement vont créer différentes adaptations. Puis la plupart du monde vont courir bien trop vite tout le temps, ce qui va faire que justement, on va en parler un petit peu plus à la fin. Mais c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de rendre différentes sorties avec une intention différente de manière le plus brainless possible, qui est tu cours entre telle zone puis telle zone à peu près. Fait que ça rend ça quand même relativement facile de le suivre. Puis, comme j'ai dit un peu tantôt, c'est le modèle le plus utilisé, mais il existe des modèles à 7 zones, puis même plus des fois où est-ce qu'on va monter en haut de 100% de la capacité aérobique totale. Mettons, si tu fais des sprints, ou tu fais de la puissance, ou tu fais du drive vraiment, vraiment de vitesse, bien, c'est des choses qui peuvent avoir de la valeur, mais la plupart du monde n'ont probablement pas tant entendu parler de ça, puis j'essaie de rendre ça le plus simple possible. Fait que zone 1 à 5 pour la plupart du monde, ça va pas mal ressembler à ça, je vous dirais. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre qu'il y a différentes zones qui créent différentes adaptations d'entraînement. Ça, c'est super, super important. Règle générale, puis ça serait probablement ça comme mon premier entrée que j'ai dit que j'allais revenir, 80%, 70, 80, même je dirais 75, 80% de ton volume devrait être fait zone 1, 2. Okay. L'écrasante majorité de ce que tu fais devrait être bâti de, en bas de 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Pourquoi? Pour une raison vraiment, vraiment simple, c'est parce que c'est là que le fond d'endurance, que moi j'appelle, est bâti. C'est vraiment la capacité de ton corps, les adaptations musculaires en endurance, les adaptations musculaires, les adaptations d'endurance aérobique. Le fond d'aérobique, la capacité de soutenir un certain volume de travail, ce que la plupart du monde n'ont pas, ça c'est vraiment, vraiment bâti en bas de 70% de la fréquence cardiaque. Puis ça, c'est vraiment pas compliqué. 70% de ta fréquence cardiaque est moins, ça veut dire que tu es pas mal capable de jaser tout le long. Rendu à la fin de ta zone 2, probablement que tu commences à peu hors de fun à jaser, genre ça commence à être un peu plus difficile, mais tu n'es pas en train de mourir à côté d'embarrure. Puis c'est ça une des premières erreurs que le monde font, c'est que le monde, après un peu d'entraînement, parce qu'il y a quand même un, au début, c'était juste de tenir des ondes, mais c'est la première fois que tu cours, tu es peut-être en train de te casser la tête avec des trucs qui ne sont pas si importants que ça, tu sais. Mais c'est là que la plupart du monde vont faire quand même une grosse erreur, c'est qu'ils vont essayer de courir tout le temps trop vite, d'être tout le temps trop essoufflé, tandis que l'écrasante majorité de ton volume devrait être fait dans une zone qui est relativement facile pour justement bâtir ce fond-là, pour diminuer ton risque de blessure, pour faire que si tu t'en vas, tu sais, tu n'es pas capable de courir plus que 5 km par semaine, puis tu t'en vas courir un 5 km dans le fond. Fait qu'à chaque fois que tu cours plus que 100% de ta capacité dans le fond, parce que tu cours plus vite que ce que ton corps est habitué, entre guillemets, de tolérer. Puis ça, je te ramène pour le désastre. Fait que vraiment, vraiment important de comprendre que l'écrasante majorité de ton training d'entraînement, mettons, allons-y 80% pour garder ça simple, devrait se faire en bas de la zone 2. Fait qu'à une intensité maximale de 70% de ta fréquence cardiaque max estimée, donc 220 moins ton âge, plus ou moins, si tu es capable de le tester avec un 6 minutes à l'autre ou un effort d'un, tu devrais pas mal finir à ta capacité aérobique maximale, là, à ton VO2 puis à ta fréquence cardiaque maximale. Fait que si tu le tester, c'est un peu mieux, mais 220 pour moins l'âge pour la plupart du monde, ça va donner une bonne idée. Là. Compte ton 220 moins ton âge, 70% de ça, c'est là que tu devrais passer la plupart de ton temps. Ensuite, zone 3, 4, 5. Okay? C'est là que les choses vont se complexifier un peu. Zone 3, 4, 5, on va vraiment attribuer le temps d'entraînement dépendant de c'est quoi l'élément limitant. Lorsqu'on va tomber dans de la zone 3, fait que 70 à 80% de la fréquence cardiaque, qu'on va surtout entraîner dans le jargon, on appelle ça des tempo runs. Fait que là, essentiellement, une zone 3, c'est que tu commences à générer de la fatigue, mais tu peux t'entraîner à tolérer un pace ou à tolérer des affaires qui vont se passer là-dedans. C'est souvent vraiment, vraiment ça que ça va servir. Puis en zone 3, tu as de la misère à faire des phrases complètes. Là. C'est vraiment ça qui ça permet de l'illustrer un peu plus. Là. C'est genre, tu cours, tu es capable de parler, mais tu n'as pas vraiment de plaisir à parler. T'sais, ça, c'est pas mal le pace de zone 3 pour la plupart du monde. Lorsque tu vas tomber dans de la zone 4, tu n'as absolument aucune fucking envie de parler. La zone 4, c'est ce qu'on appelle du training de seuil, où est-ce qu'on va commencer à bâtir du lactate puis vraiment, vraiment générer de la fatigue. C'est très, très, très demandant. Un 10 à 15 kilos, là, ça se court pas mal. Il y a certains athlètes de haut niveau qui sont capables de courir un demi dans cette zone-là, là, mais la plupart du monde, c'est 10-15 qui est dans le fond, c'est pas mal de la zone 4, puis tu n'as vraiment, vraiment, absolument aucun plaisir à courir ça, à cette affaire-là. Puis après ça, tu as une zone 5, où est-ce que ta zone 5, essentiellement, c'est tout ce qui va être effort. Dans le fond, ta zone 4, à base de ta capacité de tenir un pace, tu entraînes ta capacité d'avoir ton seuil lactique, fait que ça te permet d'entraîner justement la capacité de ton corps à, si tu veux, flusher la fatigue. Puis au niveau de la zone 5, l'autre zone qui reste, c'est 90% de ta fréquence cardiaque et plus, jusqu'à 100% dans le fond. Puis là, ce qu'on entraîne vraiment, c'est les adaptations vraiment aérobiques. Fait que c'est la capacité de ton cœur de pousser l'oxygène. On entraîne ta capacité de pousser dans la zone rouge, puis c'est vraiment devenir plus en shape, entre guillemets, au niveau de ton cœur, de tes poumons. C'est tout ça qui va être entraîné dans cette zone-là. Puis c'est vraiment des adaptations qui peuvent se faire, mettons, au niveau de l'amélioration du volume d'éjection systolique au niveau du cœur. Fait qu'on peut carrément entraîner la capacité de ton cœur à être efficace à l'effort. Le cœur est un muscle, le myocarde est un muscle. Puis ça, c'est vraiment du travail de VO2, fait que vraiment de capacité aérobique totale ou de vitesse aérobique maximale. C'est vraiment là que ça va se travailler. Puis ça devrait être vraiment, vraiment cherry on top pour la plupart du monde. La plupart du monde n'ont pas assez de volume d'entraînement pour commencer à faire du travail de VO2. Puis après ça, c'est vraiment, vraiment t'attribues selon c'est quoi ton élément limitant avec différents tests. Mais je veux pas que ce podcast-là s'étire et que ça vienne vraiment, vraiment compliqué, mais c'est concrètement, c'est juste ça. Fait que c'est des barèmes de 10%, 50, 60, 70, 80, 90 avec une zone d'attribuer. Roughly, mais qui est très roughly speaking, comme je dis, c'est vraiment important de checker les barèmes parce qu'il y en a qui travaillent avec 55, 65, puis c'est pas grave lequel vous travaillez avec, c'est juste que tant que vous travaillez pas mal avec le même, je vous dirais, ça va pas mal faire le job. Puis ce qu'on veut dans le fond, c'est comprendre l'intention de notre sortie d'entraînement, comprendre que l'entraînement dans différentes zones va créer différentes adaptations, ça c'est vraiment, vraiment très, très important, puis que de pas courir dans le fond trop vite, dans le sens que l'écrasante majorité de ton volume devrait être faite à entraîner ton corps, à être capable de parler, à maintenir un volume aérobique, à être capable de toffer un certain pace relativement soft, dans le sens que tu entraînes vraiment tes muscles, tes tendons, tes articulations à maintenir un pace de course. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait une descente job de rendre ça simple. Fait que simplement dit, mesurez vos fréquences cardiaques, appliquez-les à l'entraînement. Restez pas anal là-dessus. Genre, c'est pas grave si c'est pas parfait puis que t'as pas la précision de 12 chérubins qui viennent te porter l'épée divine de la Providence, référence au Witcher pour ceux qui savent c'est quoi. Mais tu sais, c'est pas grave si c'est pas hyper précis, c'est de s'en servir comme guideline relativement précis. Puis si t'es quelqu'un d'avancé, c'est probablement pas une bonne idée. Si t'es quelqu'un de débutant, c'est probablement pas une super idée. Mais ça ressemble à ça, relativement l'entraînement, l'explication du modèle. Comprendre qu'il y a différents modèles aussi. Que l'écrasante majorité de vos sorties devaient être faites dans des zones qui sont relativement chill. Puis qu'ensuite, lorsqu'on tombe dans une zone 3, 4, 5, ben c'est vraiment là qu'on va commencer à créer différentes adaptations spécifiques. Fait que zone 5, on va créer des adaptations qui vont être plus au niveau du VO2, fait que la capacité aérobique totale. Zone 4, ça va entraîner plus le seuil lactique. On va entraîner genre la capacité de flusher la fatigue, disons ça simple. Puis ta zone 3, c'est là qu'on va commencer à faire des tempo runs, t'entraîner à toffer certains pace, mettons. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que si jamais quoi que ce soit, si jamais vous avez aimé ce petit podcast-là, je vais essayer de garder ça court, je vais essayer de garder ça simple parce que je vais avoir au moins 3-4 clients à qui je vais l'envoyer. Fait que je vais essayer de garder ça simple pour pas les écraser avec ça. Si j'ai aimé ce podcast-là, n'hésitez pas à me dire, ça me fait tant plaisir de savoir quel sujet vous aimez ça que je parle. Si vous avez aimé le podcast, vous savez que vous avez aimé le podcast. Ça me semble vraiment une excellente idée en ce moment de faire un email là-dessus. Fait que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas fait d'email là-dessus. Je vais probablement faire un email là-dessus dans lequel je vais faire un petit recap des ondes plus simples, plus applicables dans un courriel. Maintenant que j'en parle, ça me semble vraiment une excellente idée. Fait que je vais probablement faire un podcast, un email là-dessus la semaine prochaine. Mais ça pour dire, je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans le courriel. Si vous avez un podcast, c'est sûr que vous avez aimé l'email. Le lien est dans la description. Je vous laisse avec la fin de la toune, puis on s'en reparle très bientôt tout le monde. Ciao, bye! Give them the chance. Don't sell your heart.